Studio Tamani, voici les informations en français.
8 juin 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et merci pour votre constante fidélité à la une de l'actualité de ce lundi. Après l'interdiction de circulation des motos à grosse cylindrée dans les agglomérations, les autorités suspendent désormais leur importation, leur transit et leur commercialisation jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui plonge de nombreux commerçants dans l'incertitude. Sport football, Anthony Da Silva a été nommé sélectionneur des Aigles du Mali jeudi dernier. Selon l'AFEMA Foot, son expérience et son profil correspondent aux défis actuels du football national. Voilà donc pour le sommaire, les développements à suivre. À la présentation, je suis la Ladjara Touré, Gagné Kanté est à la technique. Après l'arrêté interministériel du 3 juin 2026 interdisant la circulation des motos de 125 cm3 et plus hors des agglomérations, les autorités maliennes ont franchi une nouvelle étape. Le gouvernement a décidé de suspendre l'importation, le transit et la commercialisation de ces engins sur l'ensemble du territoire national. Une décision qui suscite des réactions contrastées. Des commerçants confrontés à d'importants stocks de motos se disent désemparés. De leur côté, des usagers affirment respecter la mesure malgré ses répercussions sur leurs déplacements et leurs activités. Reportage signé Sita Silibé et Sita Diarra avec le concours de nos correspondants.
Au grand marché de Bamako, des dizaines de motos à grosse cylindrée sont encore exposées dans les magasins. C'est le cas chez Burama Tangara, vendeur de motos qui affirme avoir été surpris par la décision.
Nous respectons la décision des autorités, même si elles nous pénalisent. Notre magasin est rempli de motos à grosse cylindrée. La situation est donc compliquée pour nous. Nous espérons que les autorités prendront des dispositions pour aider les commerçants à faire face aux conséquences de cette mesure.
À Bankass, Yoroso, Bafoulabé et Bamako, les avis sont partagés sur cette décision. Si certains saluent une mesure qu'ils jugent nécessaire pour renforcer la sécurité, d'autres s'inquiètent de ses conséquences sur leur quotidien et leurs activités.
Pour le pays, c'est la nation. Donc on ne peut que se soumettre et accepter.
Bien sûr, ça peut également freiner les déplacements. Ça peut également jouer sur l'économie également de ces environnements.
Pour le respect de la mesure, en tout cas, le début serait un peu difficile. Il y a beaucoup de gens ici en bourse qui n'ont pas d'autres moyens de déplacement.
Autre effet observé depuis l'annonce de la mesure, la hausse du prix des motos de Jakarta selon plusieurs citoyens. D'après des commerçants, cette augmentation avait commencé bien avant l'interdiction et s'explique notamment par les difficultés d'approvisionnement liées au contexte sécuritaire et aux coûts supplémentaires du transport des marchandises.
Absolument, Issa Diarra, le prix de la moto Jakarta a augmenté sur les marchés des Ségou depuis quelques jours. Une moto vendue à 450 000 francs CFA la semaine dernière est cédée aujourd'hui à 500 000 francs CFA. Selon des habitants, cette augmentation est constatée depuis la suspension de la circulation des motocyclettes des cylindrées égales ou supérieures à 125 cm3 par le gouvernement en dehors des grandes agglomérations. Ils appellent les autorités à plafonner le prix de la moto Jakarta. Et par ailleurs, la justice malienne a condamné le vendredi 5 juin à Bamako les ressortissants français Yann Vézilier à 20 ans de prison ferme. Le tribunal a également prononcé une interdiction de séjour de 20 ans ainsi qu'une amende de 3,6 millions de francs CFA. L'intéressé a en outre été condamné au paiement du franc symbolique et aux dépens. Yann Vézilier avait été interpellé le 13 août 2025 à Bamako lors d'une opération menée par les services de renseignement maliens. Partant à l'intérieur du pays à présent, à Corée, les réfugiés burkinabés souffrent le martyr pour avoir de l'eau. Chaque jour, des jeunes filles parcourent des kilomètres à la recherche de l'eau. À pied, bidon sur la tête ou à vélo, elles bravent les soleils ardents pour apporter de l'eau à leurs parents. Ces ménages réfugiés demandent aux bonnes volontés de les doter de points d'eau pour alléger leurs souffrances. Il faut rappeler que la ville de Koro fait face depuis un certain temps à une pénurie d'eau depuis plusieurs semaines.
Studio Tamani est un projet de la Fondation Hirondelle au Mali en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par la coopération suisse, la coopération espagnole, l'Union européenne et le gouvernement norvégien.
Et je vous le disais au sommaire, Anthony Da Silva a été nommé ce jeudi sélectionneur des Aigles du Mali par la Fédération malienne de football. Selon l'instance dirigeante, les techniciens portugais répondent aux critères définis pour ce poste. Mais pour les observateurs, le nouveau sélectionneur devra faire preuve d'un fort caractère afin de répondre aux attentes des supporters et d'obtenir des résultats. Suleiman Bobo Tunkara est journaliste sportif. Il est joint par Khalifa Goïta.
C'est un choix par défaut parce que le choix avait été porté sur Florent Ibengué qui a désisté à la dernière minute. Mais il faut aussi rappeler que le nom du technicien portugais figurait déjà sur la shortlist. On ne peut pas dire forcément que sa nomination est une surprise. Maintenant, est-ce que c'est l'homme de la situation? C'est difficile de le dire pour le moment. Il faut le voir à l'œuvre. Depuis plusieurs années, les supporters font beaucoup d'espoir sur l'équipe, mais à l'arrivée, on est déçu. On ne sait pas dans quelles conditions il va travailler. Il faut qu'il ait une forte personnalité. Anthony, c'est quelqu'un qui n'a pas entraîné une grande équipe. Il est passé par le Cameroun. Et là, ça ne s'est même pas bien passé. Pour le reste, c'est des petites équipes. Sinon, il n'a pas un vécu international en tant que tel. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir au Mali. Il peut bien réussir au Mali.
Place à présent à la rétrospective des principaux faits qui ont marqué l'actualité de la semaine écoulée. C'est avec Ntalag Bilal.
La semaine dernière a été marquée par la tenue du premier forum panafricain des médias. À l'issue des échanges, les participants ont recommandé la promotion des récits africains portés par les Africains, le renforcement des mécanismes de financement des médias, une meilleure coopération entre professionnels des médias, ainsi qu'un usage responsable de l'intelligence artificielle dans les rédactions. Dans un autre registre, les autorités ont suspendu la circulation des motos de 125 cylindres et plus en dehors des grandes agglomérations. Cette mesure vise à renforcer la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Enfin, la 27e édition de la quinzaine de l'environnement a été officiellement lancée. À Bintagongo, dans la région de Tombouctou, l'avancée du désert et les effets du changement climatique menacent les terres agricoles et les moyens de subsistance de milliers de personnes dépendantes du système Faguibine.
Et c'est ce qui met un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, plais à Dieu. Bonsoir. Véritable source de vie pour 2 millions de personnes, le fleuve Niger est aujourd'hui confronté à de nombreuses pressions. Rejets d'eau usée, domestique et industrielle, déchets plastiques, ensablement et diverses activités humaines contribuent à la dégradation progressive de cet écosystème vital. Malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures prises par les autorités, les comportements nuisibles persistent. Face à cette situation, plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour préserver le fleuve et garantir sa pérennité au profit des populations qui en dépendent. Toutefois, les défis restent nombreux et nécessitent l'implication de tous les acteurs. Les magazines Environnement s'y intéressent. Il est signé par Aïssata Diarra.
Pour préserver le fleuve Niger, plusieurs initiatives sont actuellement mises en œuvre par l'Agence du bassin du fleuve Niger. Ces actions sont menées en collaboration avec les collectivités territoriales, les services d'assainissement et d'autres partenaires. Au Périberté, chef d'antenne du Haut-Niger, à l'Agence du bassin du fleuve Niger, nous en parle.
Les eaux usées domestiques, les laboratoires et les hôpitaux, toutes les industries qui déversent leurs eaux dans le fleuve Niger, nous les avons tous identifiées. Des dispositions pratiques seront prises pour mettre fin à ça.
Autre défi de taille, l'ensablement du fleuve, un phénomène qui réduit progressivement son lit et menace son équilibre écologique. Selon Opériberté, la lutte contre ce problème exige des efforts soutenus et une implication de tous les acteurs concernés.
L'ensablement, pour le combattre, ça demande suffisamment de moyens parce qu'il faut curer complètement le fleuve. Nous sommes en train de voir comment organiser une table ronde avec les bailleurs pour faire face à ces défis.
Pêcheurs, maraîchers et autres usagers du fleuve constate une baisse des ressources et une détérioration de leurs conditions de travail. Seydou Maïga, pêcheur, et Issouf Diallo, jardinier, témoignent.
Autrefois, la pêche était abondante car l'eau du fleuve était de meilleure qualité. Aujourd'hui, les activités d'orpaillage ont fortement réduit la quantité de poissons. Si rien n'est fait, il pourrait ne plus y avoir de poissons dans le fleuve dans les années à venir.
Des eaux usées provenant des toilettes sont déversées dans le fleuve. Pourtant, cette eau est utilisée pour le maraîchage, des résidus de lait ou des médicaments traditionnels y sont aussi jetés.
Si ces initiatives sont saluées par les spécialistes de l'environnement, certains estiment qu'elles doivent être renforcées. C'est le cas de Gaussou Berté, environnementaliste. Selon lui, la protection du fleuve passe également par une meilleure gestion de certaines pratiques humaines, notamment l'agriculture périurbaine.
Dans beaucoup de coins, l'agriculture est pratiquée au bord du fleuve. Et cette terre, avec la montée de l'eau, coule vers le fond du fleuve. Donc il faut arriver à pouvoir sécuriser les berges du fleuve. Il faut voir aussi la situation du traitement des eaux usées au Mali.
À noter que les actions de préservation du fleuve s'inscrivent dans une dynamique plus large de protection de l'environnement. Depuis décembre 2025, des opérations de lutte contre l'orpaillage par drague sont menées dans plusieurs localités du pays. Plusieurs engins ont ainsi été saisis et détruits à Bougouni, Yanfolila, Gabakoro, Baguineda et Katibou.